Bonjour Caroline.
Bonjour Lucie.
Je te remercie infiniment d'avoir accepté ce recueil de témoignages. J'en suis honorée
Avec plaisir.
de te présenter en quelques mots, s'il te plaît.
Je m'appelle Caroline Gay, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants de 11 et 8 ans. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 2011 et je suis surtout phytothérapeute. Donc phytothérapie, c'est tout ce qui touche aux soins par les plantes médicinales, mais aussi par la micronutrition, les fleurs de Bac, les huiles essentielles, etc. Donc je suis aussi aromatologue, donc je suis certifiée dans ces domaines-là. Donc je pratique mon métier de façon plurielle. Souvent je dis que j'ai cinq métiers dans la semaine. Donc assez classiquement, j'ai un cabinet en libéral à Paris, donc en tant que diététicienne et phytothérapeute. J'ai aussi repris une herboristerie. Depuis 2022 à Aulnay-sous-Bois, après avoir moi-même travaillé comme salariée à l'herboristerie du Palais-Royal pendant 10 ans, j'ai beaucoup appris sur ce métier. J'ai une activité de consultante en entreprise, où j'aide des petites startups comme des plus grosses boîtes à faire de la formulation, à créer des produits, à faire de la formation du personnel autour de tout ce qui est produit à base de produits naturels. J'enseigne aussi. J'ai une petite école de formation, là, une académie de phytothérapie en e-learning. Je suis auteure aux éditions Le Duc. J'ai écrit 12 livres. Il y a un petit 13e là qui sort en janvier 25. Et voilà, moi, ce que j'adore, c'est vulgariser un petit peu tout ça. C'est vrai que la phytothérapie, c'est un peu l'image des remèdes de grand-mère, un peu poussiéreux, un peu voilà, alors que ça peut être très funky la phyto et pas du tout désuet. Et je prône aussi une vision de la santé plus intégrative en France. Donc la santé intégrative, c'est comment justement on vient s'intégrer à l'allopathie. Donc l'allopathie, c'est notre système de santé actuel avec les médicaments chimiques, qui reste un progrès et qu'on ne renie pas, loin de là. Néanmoins, on sait que le tout médicament a aussi ses limites, qu'il y a des effets secondaires, qu'il y a des problématiques liées aussi à l'usage et au surusage de ces médicaments, et qu'en fait, il y aurait tout intérêt à travailler en bonne intelligence, à faire davantage de prévention avec la phytothérapie, la micronutrition, de base, l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, etc. Et même pour des pathologies graves, je pense au cancer ou à des maladies comme le diabète, des maladies chroniques, souvent, quand vous prenez des produits de santé naturelle en plus de vos traitements, bah, ça améliore la tolérance de vos traitements, ça améliore votre qualité de vie. Et voilà. Donc, la santé intégrative, c'est un peu ça, c'est rapprocher tous les professionnels de la santé très médicale et tous les professionnels un peu du bien-être et de la santé naturelle, ben, ensemble, et de se dire, en fait, on a tout intérêt à bosser ensemble pour le bien-être de nos patients. Voilà, et donc, ben, je démocratise via la voie du livre. Donc, moi, tous mes livres, c'est vraiment, il y a zéro jargon, c'est pour expliquer au commun des mortels comment s'initier un petit peu au pouvoir des plantes, et via aussi l'académie, et voilà, il y a aussi un petit peu les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Voilà un petit peu tout ce que je fais.
Ok, merci. Oh, quelle richesse. Mon parcours est très riche et je rebondis justement sur ça. Et comment c'était à l'école pour toi, Caroline?
C'était très très moyen. Comme je dis toujours, je pense que les profs, ils n'auraient pas parié deux copecs sur moi. Moi, j'ai été enfin, moi déjà, dans ma vie, j'ai perdu ma maman, j'avais 7 ans, j'avais un petit frère de 5 ans. Mon père était restaurateur, on avait l'appart juste au-dessus de son restaurant. Donc, mon père était une présence physique, il était là, mais il s'occupait pas de nous parce qu'il était accaparé par son resto. Donc, moi, j'étais la petite maman de mon frère très tôt. On a grandi que tous les deux et je n'avais pas d'adulte derrière moi pour m'aider dans mes devoirs. C'est-à-dire que quand je rentrais des cours, mon père il faisait la sieste souvent et donc je devais m'auto-gérer toute seule. Donc quand j'étais en difficulté dans mes cours de n'importe quelle matière, bah, j'étais toute seule. Mon père il m'a jamais payé les cours de soutien à domicile. Voilà. Dans le collège où j'étais, il n'y avait pas spécialement de groupe de tutorat.
Un jour.
Etc. Donc la primaire ça a été normal quoi, mais j'ai jamais été une élève exceptionnelle. Et au collège, toute ma scolarité du collège, j'ai eu 11 de moyenne à peu près. Donc vraiment l'élève très très moyenne. Voilà, mais bon, ça allait. Et en seconde, j'ai redoublé ma seconde parce que je voulais un passage en général. Je voulais faire des études de médecine.
OK.
Et mon directeur de l'époque, avec tout le tact qui le caractérisait, m'avait dit « Non, mais toi, tu ne seras jamais médecin, tu seras jamais mieux qu'une infirmière. » C'est très
Wow.
dénigrant pour les infirmières
Exact.
qui font un travail fabuleux. Moi, toutes mes amies sont infirmières et je sais ô combien ce métier fait partie des plus beaux qu'on puisse exercer. Et donc, du coup, comme ce couillon, il m'avait dit que je ne serais jamais une infirmière, quand j'ai redoublé ma seconde, j'ai fait un bon redoublement. J'avais mon passage en général, mais j'ai un peu validé la prophétie qu'il m'avait dit. Et donc, j'ai changé de lycée et je me suis orientée dans un lycée technologique pour faire un bac SMS, donc à l'époque, les bacs sciences médico-sociales, qui est le bac qui prépare à faire des études d'infirmière. Et donc là, de la petite élève qui avait toujours eu 11, allez, 13 en seconde en retapant, je suis arrivée dans un lycée où ma prof principale était ma prof de bio. La nana était médecin généraliste après avoir fait un bac littérature, un bac L. Passionnante, cette femme. Tous les autres profs, passionnants. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée deuxième de ma classe avec des moyennes
Wow.
à 16 de moyenne, quoi. Donc, sur le coup, j'ai pas trop compris. Mais en fait, ça me passionne. J'adore mes cours de terminologie et tout. C'était la grande passion. Et du coup, et en terminale, j'étais première de ma classe. J'ai été première de ma classe à tous les trimestres. Et j'ai eu mon
Hallucinant.
bac
Hallucinant.
à 0,1 dixième de la mention très bien. J'ai eu 15,9 au bac. La mention très bien est à 16. Et voilà. Et donc, du coup, pendant ma terminale, on passe des tests psychotechniques, en fait, qui sont des tests préparatoires au concours de l'IFSI. Donc, l'IFSI, c'est l'Institut de formation aux soins infirmiers. Et en fait, donc, je les avais, mais haut la main, je carburais tous mes trucs. Et ma prof de bio, là, ma prof principale, m'avait dit, écoute, Caro, si toi, tu veux vraiment faire médecine, franchement, t'as les capacités de faire médecine. Si moi, j'ai réussi à faire médecine après un bac L, toi, après un bac SMS, tu peux carrément y arriver. Et donc, c'est pour ça que je ne suis jamais rentrée à l'IFSI et direct, je suis partie en fac de médecine. Donc, moi, j'ai fait la fac de médecine de Paris 13, de Bobigny, qui est la fac la moins scientifique de France. Donc, elle est idéale pour tous ceux qui n'ont pas fait un bac S. C'est une fac qui a un fonctionnement assez particulier parce que vous êtes en médecine seulement le lundi et le mardi. Vous avez des cours de 8 h à 20 h. Et le mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes en double cursus licence. Donc moi, je la faisais à Villetaneuse et j'ai fait une licence en psychologie clinique et psychanalytique. Et l'idée de cette fac, non, je ne sais pas si encore à l'heure actuelle ça marche comme ça, mais moi, à mon époque, je vous parle de ça en 2006-2007.
OK.
J'ai eu en 2005. L'idée, c'était de dire qu'il y a plein de gens, ce qui a été mon cas, en fait. Donc moi, j'ai passé ma première année de médecine, qu'évidemment, j'ai planté. J'avais pas mal de jobs étudiants à côté aussi parce que j'étais étudiante solo, j'avais un loyer à payer et ma bourse couvrait juste le loyer. Donc après, j'avais 76 euros par mois pour vivre, pour m'acheter ma bouffe, payer mon téléphone, mes livres de cours, mon transport, etc. Donc je bossais à côté, ce qui ne sont pas les conditions les plus favorables pour réussir en
Favorable,
médecine.
bien sûr.
Donc j'ai retapé ma P1 et là, j'ai raté à 17 places. Donc, c'est le deuil que je ne ferai jamais, d'accord? J'ai toujours eu ce grand regret de ne pas être toulib. Être médecin aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut même plus redoubler. Donc, soit tu passes du premier coup, tu l'as, soit plus jamais de ta vie. C'est assez injuste, je trouve, mais c'est comme ça. Et du coup, quand on a fait 2 ans de médecine, en fait, on n'a pas rien avec ce système-là. C'est que du coup, moi, j'avais un équivalent DEUG, j'avais une L2 de psycho que j'avais validée. Et donc, en fait, après, j'ai rembrayé sur ma L3 de psycho, plutôt que de repartir de zéro. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait, ce système-là. Sauf que, bon, psycho, ça me disait trop rien d'en faire mon activité professionnelle ensuite. Je voulais vraiment retourner dans le soin. Et donc, j'ai choisi de faire un BTS diététique. J'ai fait 2 ans de BTS diète. Je suis sortie majeure d'Île-de-France. Donc,
Non,
pour
mais
info,
tu veux...
pour info,
J'adore, j'adore.
le BTS diète est le BTS le plus difficile à obtenir. Vous avez 24% de réussite au national. Donc, c'est le BTS. C'est pas un BTS vente ou je ne sais quoi qui est très facile à obtenir. Nous, nos profs de biochimie, c'était des médecins, en fait, ou des profs de prépa médecine. Donc, moi qui avais fait tous mes cours d'enzymo en médecine, en BTS diète, c'est exactement le même. Vous êtes un mini chef de cuisine parce que vous avez des TP culinaires 4 heures par semaine. Moi, j'ai fait ça à René Auffray à Clichy dans le 92, donc c'est pas mal parce que c'est de base c'est un lycée hôtelier, donc on faisait nos cours de cuisine avec des grands chefs dans la cuisine de l'école hôtelière. Et voilà. Et là aussi, voilà, majeure d'Île-de-France, quoi. Enfin, moi, d'où je sors majeure d'Île-de-France? J'ai eu 14,75 au BTS diététique. Et voilà. Donc, comme quoi, d'une élève très moyenne et qui n'est pas spécialement aidée et qui n'est pas un QI supérieur à la moyenne, loin de là, eh ben, on peut quand même réussir ses études. Et pour info, je n'ai jamais depuis cessé d'être étudiante. Je me forme tous les ans. Il n'y a pas une année où je ne fais pas de formation. Alors, je suis un peu anti-académique pour certaines choses. J'accorde pas tellement de diplômes, enfin de valeur à tous les diplômes, les DU, etc., que je trouve très souvent insuffisants. Donc moi, je fais que des formations avec des formateurs indépendants qui enseignent comme ils veulent et qui m'aident beaucoup. Et pour avoir fait des formations avec certains qui enseignent aussi dans des DU, ils vous disent clairement que le savoir que eux, ils vous inculquent est supérieur à celui que vous avez en DU. Et pour côtoyer des médecins, des diètes, des naturaux qui ont pu faire ces DU là, que voilà, ils viennent tous après dans ces formations là parce qu'ils disent justement t'as pas la bouteille, t'as pas l'expérience derrière, t'as qu'un savoir théorique. Voilà, donc j'ai pas de DU officiel. En soi, je m'en fous, je suis mon propre patron, donc j'ai pas de compte à rendre à un employeur. Voilà,
Bien sûr.
mais j'adore, ça me passionne, et aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais. Et je me forme pourquoi? Parce que aussi quand j'étais en BTS diète, je me rendais compte, en fait, je m'ennuyais déjà dans mes cours en me disant, mais en fait, Caro, t'as plein de gens qui savent ce qu'il faut manger, pas manger, pour leurs soucis de santé. Pour autant, est-ce qu'ils le font? Non. Ou ils vont le faire 3 semaines et puis après, ça va foirer. Et donc, je voulais absolument trouver une autre corde à mon arc pour aider mes futurs patients à me dire, non, mais en fait, les conseils alimentaires, les conseils hygiéno-diététiques qu'on nous apprend, qui sont bien, hein, ouais, ok, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en fait, pour avoir un réel impact sur la qualité de vie et l'état de santé d'un patient. Et c'est comme ça que je me suis tournée un peu comme ça au pif vers la phyto. Je viens pas du tout d'une famille où ce soit néo-naturel, mais j'avais entendu dire qu'il y en avait certains qui prenaient des tisanes pour leur diabète, pour leur tension artérielle, pour perdre du poids, pour améliorer sa glycémie, son sommeil, etc. Donc, toutes ces problématiques que nous, en tant que diététicienne, on peut être amené à prendre en charge. Donc, m'étais dit, bah, pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'herboristerie du Palais-Royal en tant que stagiaire. Et c'était le stage optionnel. Donc, le stage optionnel, c'est un stage qui a vocation à vous aller dans un endroit où il n'y a pas de diététicienne. Donc, le stage bidon que tout le monde fait, c'est d'aller dans une école primaire, par exemple, et faire des ateliers, découvrir des fruits et légumes, petit-déj équilibré, goûter équilibré avec des enfants.
Ok.
Et moi, en herbo, et de montrer tout l'intérêt qu'il y aurait à une diète. Et en fait, à l'herbo du Palais Royal, en fait, ça s'est super bien passé, ce stage. C'était la révélation avec un grand R. Et après, je me suis lue en autodidacte. Moi, je suis très autodidacte pour plein de trucs. Hein. Donc, je me suis lue tous les bouquins de phyto, les vieux ouvrages, les nouveaux, etc. Donc, j'ai tout appris sur le tas. J'ai créé mon poste. Donc, à la fin de mon stage, j'étais encore étudiante. Mon patron m'a embauchée tous les samedis de l'année scolaire en job étudiant. Donc, en fait, j'ai appris sur le tas, ce qui est la meilleure des écoles, pendant un an. Et quand j'ai eu mon BTS en novembre 2011, et ben le 1er décembre 2011, je signais mon CDI. Et donc, j'ai travaillé là-bas 3 jours par semaine en développant à côté le lancement de mon cabinet libéral. Voilà. Et depuis.
J'ai plusieurs mots, plusieurs fulgurances te concernant. Première chose, c'est que avoir du sens en fait dans ta scolarité a été révélatrice. Ça veut dire que quand tu as donné du sens de l'élève moyenne, et je mets des guillemets parce que pour moi j'ai encore des difficultés, tu vois, à percevoir un enfant moyen, mais ça veut dire par rapport à quoi et par rapport à qui? Et autre chose, quand tu dis je m'ennuie, tu avais ce besoin de nouveauté, tu avais ce besoin en fait d'être énergisé, tu avais ce besoin d'avoir une impulsion. Et pour moi, tu as été, comment dire, tu t'es révélé. Et je trouve que tu es un exemple qui est tellement, comment dire, majeur. Dans justement tous ces enfants, tous ces jeunes qui se disent nuls parce qu'ils ont une moyenne de 11, parce que leur note n'est pas à la hauteur d'eux. Merci infiniment, vraiment, pour ton partage. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui sont justement dans ces situations difficiles et qui ont du mal à se projeter dans leur avenir, quels seraient les conseils que tu leur donnerais?
Alors, celui que moi je me suis fait à moi-même, c'est que moi je n'ai jamais su comment je réussirais ma vie, mais j'ai toujours eu cette foi qui m'habitait et qui m'habite encore là, que je réussirais et que, merde alors, j'ai moi aussi droit au bonheur en fait. J'ai droit de réussir ma vie, de m'épanouir dans tous les domaines de ma vie. Donc que ce soit professionnellement, que ce soit familialement, donc dans ma vie de couple, dans ma vie de maman, dans ma vie sociale, enfin moi je vais être heureuse partout. Et donc je sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je vais y arriver. Donc c'est clairement, ayez foi en vous, surtout quand les autres ils vous disent que vous êtes bonne à rien. Enfin moi j'avais un père qui était pas des plus bienveillants, hein, qui était toujours à me rabaisser, à me dénigrer. J'ai fait toute ma scolarité dans le privé et papa, il avait de cesse de dire punaise, je vous paye le collège privé, le lycée privé, je vous demande que ça, que de bosser, vous êtes incapable de le faire, vous êtes des bons à rien, des mauvais à tout. J'ai grandi avec ça. Donc, bien, en termes de narcissisme, c'est pas génial. Sauf qu'un bon narcissisme, ça fait la confiance en soi. En plus, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mes activités, vous pouvez aussi parfois m'entendre à la radio et à la télé. J'ai même eu ma chronique à la télé sur France 5. Je suis régulièrement invitée sur France Inter et Europe 1. Mais moi, petite, j'avais un cheveu sur la langue et je parlais très mal. Enfin, j'avais un zozotement. Mon père ne m'a jamais fait faire de séance d'orthophonie. Donc, j'ai traîné ça pendant tout le collège. Le lycée, j'étais toute seule à me regarder des vidéos YouTube, à me faire des exercices avec un crayon dans la bouche
YouTube.
pour apprendre à mieux parler. Et quand j'ai commencé ma première année de libérale, je me suis moi-même payé mes séances d'orthophonie. Donc aujourd'hui, je parle tout à fait distinctement, sauf petit, voilà, mais normalement c'est bon. Et j'en suis arrivée à faire de la télé et de la radio. Le truc impensable pour moi. Enfin, donc clairement, ce que je dis à tout le monde, rien n'est impossible. Si toi, dans ta tête, tu as décidé que tu allais cartonner ta vie, tu avais le droit au bonheur et que tu as envie de réussir, et même plus que de réussir, d'exceller. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu un statut de ref dans mon domaine. Alors, c'est beaucoup de travail, hein, je dis pas que ça vient en claquant des doigts. Mais travailler fort et beaucoup, c'est plus facile quand justement ça a du sens pour vous. Donc clairement, si là vous êtes en difficulté, que vous n'avez pas un environnement hyper moteur qui vous tire vers le haut, ne cessez jamais quand même de croire en vous parce qu'en fait, on a tous cette petite étincelle au fond de nous. Il faut juste trouver le bon prof, la bonne personne, la bonne matière qui la révèle, comme tu dis, Lucie. Et une fois que ça c'est fait, vous ne pouvez que rayonner en fait.
Waouh.
Pas difficile, moi j'ai eu mes des hauts débats, mais ça c'est la vie en fait. Et dans les bas, c'est comme ça que vous apprenez. Là, on se parle en ce moment, je suis en pleine faillite sur une de mes sociétés. C'est dur, franchement, j'en bave, mais j'apprends en fait. Donc je me dis, c'est pas grave, Caro, c'est là, je mets en place des ressorts que je n'aurais jamais mobilisés, que je ne savais même pas avoir, parce que je suis dans la mouise. Donc la vie, c'est des hauts débats. Quand t'es au top, ben franchement, savoure et accueille, tu prends. Et quand t'es dans le down, c'est pas grave, relativise toujours. Relie-toi à la gratitude de tout ce qui va bien quand même, parce que t'as jamais tout qui va pas bien dans ta vie. Donc le fait que tu sois en bonne santé, que t'as un toit sur ta tête, que t'as à manger à ta faim tous les soirs, que t'aies de l'eau potable, rien que ça, qui sont des trucs tout cons, mais qu'on prend comme acquis et qui ne le sont pas, clairement. Ben voilà, c'était à te dire, ok, ça va. Maintenant, dans la mouise dans laquelle je suis, qui ne me convient pas, comment je peux faire pour m'en sortir? Et toujours tournez vos réflexions dans votre tête sur comment je peux faire pour changer ça, pas pourquoi. Pourquoi c'est très, on est sur le mode Calimero, et pourquoi moi, et pourquoi ça me tombe dessus, et pourquoi machin, pourquoi, tu n'auras pas la réponse, c'est pourquoi de toute façon. Donc cherche le comment, parce que le comment, c'est un moyen, c'est des moyens. Et moi, j'ai cette petite maxime dans ma tête, là, cette petite phrase. Et celui qui veut réussir trouve des moyens, celui qui veut échouer trouve des excuses. Et donc, chaque fois que je me dis une excuse, que je me dis, ouais, non, mais ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, moi, j'ai 38 ans, mais j'ai un physique qui fait très jeune. Quand j'ai des lunettes et des Converse, on me prend pour la grande sœur de mon fils.
Je comprends.
Et plein de fois, je me suis auto-sabotée en me disant, non, mais Caro, tu fais trop jeune, t'es trop jeune, t'es pas médecin, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et là, je me dis, top 40, c'est des excuses, trouve des moyens. Ah, et le développement personnel est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je suis tombée dans la marmite à 17 ans à peu près. Pareil, je ne l'ai jamais quittée. Lisez des livres quand vous avez un environnement pourri autour de vous. Ce qui est un peu mon cas, hein. Moi, j'ai pas de gens entrepreneurs dans mon entourage. J'ai pas, encore maintenant, pas forcément des gens qui me tirent vers le haut. Moi, je lis énormément. Et les bouquins de dev perso vous donnent des clés de compréhension de la vie, vous donnent des clés pour avancer. Vous pouvez vous former dans tous les domaines avec les livres, que ce soit dans le marketing, dans la vente, dans ce que vous voulez, pour devenir une meilleure version de vous-même et aller de l'avant et réussir votre vie en fait. Donc ne cessez jamais d'y croire parce que tout est possible, franchement.
Ah, je bois tes paroles, Caroline. Merci infiniment. Et dernière question. Pour les parents, toi qui as deux enfants, quel serait le ou les conseils, peu importe, que tu donnerais aux parents qui ont des enfants en difficulté scolaire?
Alors moi, ce que je fais déjà avec les miens, c'est les fameux 3 kiffs par jour. Tous les soirs, quand je les couche, très régulièrement. Surtout les soirs où ils se couchent ronchons, soit parce qu'ils se sont chamaillés entre eux, soit parce qu'il s'est passé un truc à l'école qui n'était pas très funky. Je leur dis avec un ton hyper enjoué, je leur dis, bon alors, c'était quoi tes 3 super trucs de la journée? Et ça peut être un truc con, j'ai gagné 2 billes à la récré, j'ai parlé avec Clémence qui avait ceci, cela, enfin voilà, les 3 pour qu'ils se couchent avec un truc sympa dans leur tête. C'est hyper important qu'ils soient pas là-dedans. Toujours en tant que parent, leur dire qu'on sera toujours là pour eux et qu'on peut tout entendre. Voilà, moi j'ai mon fils qui vient d'entrer en 6e. La première semaine de son entrée au collège, il y a une tentative de suicide d'un petit 6e. Le gars a voulu se planter un couteau et sauter du 3e étage du collège. Il y a eu cellule psychologique, tout le tralala pendant le collège. Heureusement, mon fils était au sport, au gymnase, plus loin, donc il n'était pas là quand ça s'est passé. Mais nous, la proviseure, quand elle nous a envoyé ce mail, c'était le 4e jour de la rentrée, je me suis dit, au secours, dans quoi il va être? À mon
Exact.
fils, le mot suicide, même pas ce que c'est. Donc il a fallu lui en parler, etc. Et en fait, là vraiment, à l'heure de la préadolescence et où je sais que petit à petit, il va se détacher de nous parce que c'est le passage de l'adolescence qui est un passage obligatoire où on aura moins de contrôle aussi sur les pairs, hein, donc les PAIRS, les copains,
Exact.
copines, là où il a son téléphone. Donc même si on bride beaucoup sur les applis, mais il y a un moment où on ne peut pas non plus tout fliquer. Et vraiment de leur dire, suis ta maman. Je serai toujours là pour toi, je serai toujours soutenante pour toi. Peu importe tes décisions, je ne dois pas être d'accord avec toi, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que tu es forcément sur le mauvais chemin. Je pense que c'est important aussi parce que moi, j'ai eu besoin, et là j'en fais l'expérience dans ma faillite, j'ai eu besoin de me tromper par moi-même et de me montrer qu'effectivement, c'était pas la bonne voie. Mais je trouve que les apprentissages par essais et erreurs sont très formateurs en termes de leçons de vie et d'apprentissage. Quand on se trompe soi-même, que quand quelqu'un devance les risques et les dangers pour nous, et donc qu'on se confronte jamais à ça. Donc évidemment, il faut que ce soit des risques mesurés, on s'entend, mais voilà, et puis soyez toujours dans des paroles bienveillantes avec vous. Moi, quand mes enfants ils font des conneries, et Dieu sait qu'ils en font, hein, comme tous les gamins, c'est aussi parce que mon père était très comme ça, moi je suis l'anti-modèle de mon père. Je ne dis jamais t'es nul d'avoir fait ça. Je dis toujours cette attitude est nulle. Ça change tout. Ça veut dire que c'est pas lui, mon enfant, sa personne, c'est pas Élise, c'est pas Axel qui est nul. C'est cette attitude-là d'aller, je sais pas, il charrie toujours pour des conneries de toute façon, mais d'aller michourer sa tablette dans sa chambre, c'est nul de faire ça en fait. Voilà. Et de toujours dire, c'est cette attitude-là qui est nulle, c'est pas toi. Donc voilà, soyez toujours soutenant. Après, je sais qu'en tant que parent, en fait, on fait du mieux qu'on peut. Vous ferez des erreurs, on en fait tous. Le tout, c'est de ben, parfois savoir les reconnaître, de leur dire, bah, tu sais, a posteriori, la fois dernière, j'ai élevé un peu trop la voix, je me suis trop énervée, mais parce que j'étais trop fatiguée, parce que toute la journée, vous m'avez mis la tête comme ça et que je n'en pouvais plus. Parfois, j'ai dit des gros mots. Voilà. Et de le reconnaître, en fait. Et je pense que c'est très important de savoir reconnaître ses torts. C'est pas se montrer vulnérable devant ses enfants, c'est pas perdre votre autorité devant eux, en fait. Mais je pense que c'est leur donner des clés aussi pour que eux, bah, plus tard, quand ils font des conneries et qu'ils ont des torts, bah, qu'ils sachent aussi les reconnaître. Et c'est pas grave, en fait, on peut tous se tromper. Et comme le dit l'adage, faut t'avouer et t'as moitié pardonné, en fait. Si tu t'excuses de ce que t'as fait, de ce que t'as dit, de comment tu as agi, bon, bah, ça passe mieux et on peut repartir sur un nouveau départ. Voilà. Et puis, de temps en temps, quand vraiment c'est un peu la crise, on fait les petits conseils de famille aussi. Mais voilà, d'être juste tous les quatre d'accord et de se faire un petit point. Comment ça va en ce moment? Là, l'autre fois, je voudrais rebondir sur ce qui s'est passé, sur ce que t'as dit. Mais encore un peu là. Voilà. Et de désamorcer des trucs pour pas les laisser se cristalliser, en fait.
Merci infiniment, Caroline. Tes paroles, en tout cas pour moi, sont sages. Tu transpires et tu respires en fait la passion quand on parle de ton activité, de tes activités. Et quand justement le partage de ton vécu, je l'espère, résonnera en fait à tous les jeunes et surtout aux parents qui des fois ne savent pas comment réagir. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps.
Eh bien, avec plaisir, Lucie. Merci pour cette invitation. J'espère que ça vous aidera.
Ouais.
Et quoi qu'il arrive, allez toujours de l'avant. Allez toujours de l'avant. Votre passé ne conditionne pas votre futur. Clairement, retenez ça.
Waouh, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente continuation.
Merci, Lucie, de même. Et puis, plein de belles choses à tous ceux qui nous écoutent.